Le bar PMU, c'est un lieu de rencontre où le bar est l'un des seuls endroits où aujourd'hui tout le monde peut se rencontrer, c'est-à-dire le haut de la classe moyenne, la classe pauvre, tout le monde peut se rencontrer, c'est le seul endroit en fait. C'est le dernier lien social, je dirais.
Bonjour à toutes et à tous, poussez la porte de Zoom Zoom Zen, n'ayez pas peur. Avec votre émission aujourd'hui, je vous mets un morpion. Comment Manon, vous en avez déjà? Mais non, le jeu a gratté, le jeu a gracté. Enfin, je peux aussi vous mettre un astro ou un tac au tac si ça existe encore. Ah. Aujourd'hui, oui, je vous invite au bar PMU, institution française s'il en est, mais institution qui vacille. Notre pays a en effet perdu près de 18 000 bars tabac en 20 ans. Ce lieu de rencontre par excellence, de sociabilisation, était incontournable dans la plupart des villes et villages. Pourquoi le bar tabac est-il si souvent d'ailleurs un bar PMU, proposant donc de suivre et de parier sur les courses hippiques? On va retracer l'histoire et s'interroger sur l'avenir du bar PMU qui connaît un retour de hype chez les jeunes, notamment ceux qu'on désigne sous l'appellation de « bobo ». C'est ainsi que notre rédacteur en chef adjoint, Pierre Courade, qui aurait pourtant été à mon avis peu à son aise dans un vrai bar PMU de Villepinte, aime le vendredi soir s'encanailler dans un établissement du 11e arrondissement de Paris, surfant sur la nostalgie des bars PMU qu'on appelle le cornichon. Le nom aurait été trouvé en référence aux clients, prêts à payer 12 euros un Ricard et 16 un œuf maillot.
Les gens sont cons, faut en profiter.
M'a un jour confié le patron, en faisant semblant d'essuyer ses verres au comptoir, activité purement décorative destinée à apporter une patine vintage, le vrai essuyage des verres étant effectué par 12 Sri Lankais au sous-sol. Bref, le genre d'endroit authentique que Pierre adore, il regrette juste qu'il ne pousse pas le concept jusqu'à permettre de parier sur les courses hippiques. Mais ils y songent, Pierre a parlé de Manon, au patron du cornichon. Il lui a raconté que c'était le genre de cliente qui pouvait s'estimer gagnante en ayant remporté 17 centimes sur une mise de 50 euros. C'est sûr qu'avec des cornichons pareils, ça permettrait de doubler le chiffre d'affaires les soirs de tiercé, s'est dit le patron. Mais laissons Pierre et le patron du cornichon à leur magouille. Zoom Zoom Zen spécial bar PMU. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Peut-être rectifier, c'est 28 centimes.
28 centimes, on donne le bon chiffre.
Autant pour moi, Manon. Vous êtes une vraie gagnante.
Mais oui.
Bonjour, Jean-Laurent Casselli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes le fondateur de Maison Casselli, un bureau de tendance qui étudie les transformations des modes de vie et de consommation des Français. Vous avez notamment publié une enquête sur les diplômés qui se reconvertissent vers des métiers plus manuels. Vous avez aussi coécrit avec Jérôme Fourquet qu'on embrasse la France sous nos yeux. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre dernière étude intitulée « La France des bars tabac, réinventer le dernier commerce populaire », une enquête sur ces bars de moins en moins nombreux, mais qu'on regrette. Comment sauver ces commerces de proximité? Est-ce qu'on ne les a pas trop fantasmés maintenant qu'on les fréquente moins? Comment se réinventent-ils? C'est ce que vous allez nous expliquer juste le temps que je vous présente mes piliers de bar à moi. Manon Mariani, dites la Marianoche. Quentin, lui, dites Quentin la combine. Bonjour.
Et bonjour.
Salut mon grand.
Salut à tous.
Manon, dans votre Ricard, il y a un glaçon. Et dans votre pièce jointe alors?
Je mets beaucoup de glaçons dans mon Ricard.
C'est vrai?
Ah ouais, ouais, pas
je le noie. On n'en a jamais bu ensemble, Quentin, donc
si,
voilà. Ça n'arrivera pas d'ailleurs.
Vous le prenez par deux, je sais.
Allez, bye. Bref, dans la pièce jointe, justement, zoom sur le cornichon, le bar fétiche de Pierre Courade, qui boycotte maintenant pour une raison totalement inutile,
c'est vrai
que je vous révélerai tout
à
l'heure.
Et vous, est-ce que, comme notre rédacteur en chef, il vous arrive, après une dure journée de labeur, d'aller vous en jeter un petit au zinc d'un bar PMU
derrière
et, d'y rester une heure, puis deux, puis trois, jusqu'à ne plus y voir très clair?
Et comme on est plus de... Pardon.
Est allé vous poser la question.
J'ai pas choisi un petit bar à la campagne, je n'ai pas non plus choisi la liste de cafés PMU bobo dans lesquels se perdent les âmes parisiennes telles que Manon. Et Pierre, dans la prochaine demi-heure, je vous emmène au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Et autant vous dire qu'il n'y a pas d'œuf maillot à la Poudargue.
Ah bon? À non. Quoi alors?
Il n'y a pas d'œuf maillot tout court.
Ah, pas d'œuf maillot. Le bar PMU, c'est une institution, mais c'est aussi des mots, des expressions, tout un univers lexical que je vous propose de découvrir dans un Zoom Zoom test spécial vocabulaire du zinc.
Oh, wow. Ah,
évidemment, pour éviter les délits initiés, Manon partira avec un handicap de 2 points.
Quoi?
Après 17h, restez avec nous, surtout si en 2006, vous manifestiez comme moi dans la rue contre le CPE. Car oui, c'était la grande info de cette phrase, j'ai manifesté. Zoom, zoom back.
C'est faux.
Direction.
Bon. On n'a pas de photos.
Il se trouve que c'est vrai, je pourrais vous fournir des photos.
Mais zoom, vous étiez chez Fogiel.
Zoom, zoom back. Direction, donc, ça ne m'empêchait pas de m'intéresser à la jeunesse. J'en sortais à peine. Zoom, zoom back. Direction, donc, 2006, l'année aussi où les Italiens nous ont volé la Coupe du Monde. Cyril. Mais d'abord, on va donc passer au comptoir sans jeter un petit... Jean-Laurent Casselli, vous dites au début de votre enquête que le bar tabac est un vestige d'une France unifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Elle est désunifiée aujourd'hui, notre France?
Bah, comme vous l'avez bien dit en introduction, c'est vrai que c'est un endroit qui est souvent idéalisé
et je dirais même plus idéalisés par les gens qui ne les fréquentent pas, ou peu, ou pas assez. Et c'est un endroit qui est encore très populaire dans tous les sens du terme. Il y a, alors je donnerai quelques chiffres, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de bars, cafés populaires en France, et strictement dans les 14 000 bars PMU. Et en tout cas, ce sont des lieux qu'on trouve un peu partout, dans les villages, dans les villes moyennes, dans les grandes villes, dans les quartiers bobos, dans les quartiers pauvres, les quartiers riches, il y en a partout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme ce sont des commerçants indépendants qui les tiennent, souvent des couples, le PMU, le point de vente, va très souvent être plastique et s'adapter au quartier. Et vous parliez du Blanc-Ménil, ouais. J'ai hâte d'entendre qui étaient les clients du Blanc-Ménil et qui était le patron. Mais dans tous les lieux de France, vous allez avoir, par exemple, dans un quartier bourgeois, vous auriez peut-être un côté cave à cigares.
Ça
s'adapte beaucoup au marché local. Et donc, il y a des PMU, des bars tabac, des cafés partout, mais ils sont assez plastiques et ils s'adaptent beaucoup au microclimat local.
Par exemple, pour faire une comparaison, j'y pense maintenant comme ça, mais un PMU, c'est pas du tout comme un McDo. Le McDo, on va retrouver la même expérience partout dans un même pays, tandis que le bar PMU s'adapte à son environnement.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, je prends souvent l'analogie avec McDo ou Burger King. En fait, le PMU, donc, qui est un opérateur de jeux, de courses hippiques, en fait, a une charte graphique, oui. Des bornes de jeux, donc c'est la même chose partout, mais par contre, il y a une adaptation, il n'y a pas exactement le même dispositif qui est déployé dans tous les bars, et surtout, ce que les gens savent peu, c'est pas monsieur ou madame PMU qui possède les 14 000 bars PMU.
Non.
C'est à chaque fois monsieur et madame machin qui est propriétaire de son bar, de son café, de son commerce, et qui contractualise avec PMU pour avoir l'activité PMU. Donc c'est à la fois très charté, très homogénéisé et à chaque fois une expérience
personnalisable. Voilà. Lui, il était si souvent accoudé au comptoir du bar PMU de Ponto Combo que lorsqu'il entrait dans l'établissement, tous les clients chantaient
Cyril la carrière.
Et lorsque 6 heures plus tard, il en ressortait, tous les clients chantaient
Cyril la carrière.
ça devait être de belles journées.
Bien coupé,
il avait payé sa tournée un certain nombre de fois.
C'était de belles journées.
Eh oui. Cyril, votre expertise est totale aujourd'hui.
Oui.
Racontez-nous les bars PMU, d'où ça sort.
Imaginez, c'est dimanche matin, vous poussez la porte du Café des Sports, au comptoir ça parle fort, soudain, silence, tout le monde lève les yeux vers la télé, c'est le départ de la 5e à Vincennes. C'est ça le bar PMU, une institution française aussi emblématique que la baguette de pain. Pour comprendre d'où ça vient, cette idée d'installer des guichets de paris hippiques au milieu des tireuses à bière, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À l'époque, pour parier, il faut se rendre dans un hippodrome. En dehors, ce sont des bookmakers clandestins qui prennent les paris dans des arrière-salles de café. En 1891, l'État les interdit et impose le principe du pari mutuel. C'est quand les parieurs jouent les uns contre les autres, pas contre la banque. 40 ans plus tard, l'État autorise enfin les paris en dehors des champs de course et c'est comme ça qu'est né le pari mutuel urbain, le PMU. Et tout ça avec une idée de génie. On va mettre ces guichets dans le réseau social le plus puissant de France, les bistrots.
Et puis il y a l'invention qui va tout changer, Cyril.
1954, André Caru invente le tiercé. Le principe est aussi simple que brillant, trouver les 3 premiers chevaux de la course, le tiercé transforme le PMU. Des personnalités vont incarner cette mythologie, Léon Zitrone et Guy Lux, qui hurlent à la télé l'arrivée des chevaux avec une passion dramatique. Et puis plus tard, l'acteur hollywoodien Omar Sharif.
Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner.
La passion de gagner.
Les courses, c'était son dada.
Oui, effectivement, quand le docteur Jivago entre dans les bars PMU. Alors, d'où ça sort le bar PMU? Eh bien, de l'illusion qu'en l'espace d'une course, on peut changer de vie. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Jean-Laurent Casselli, on le dit, on le répète un peu comme un slogan, mais le bar PMU, c'est vraiment l'ancêtre des réseaux sociaux, finalement.
Quelque part, c'est un lieu dans lequel on raconte des conneries. Pour ça ressemble un peu aux réseaux sociaux. Mais pas que, c'est aussi un endroit dans lequel on peut lier connaissances, peut-être avec des étrangers. Contrairement à ce qu'on imagine, les gens qui fréquentent le même bar ne deviennent pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais il y a quand même cette sociabilité, cette convivialité qu'on retrouve aussi parfois sur les réseaux sociaux. On peut échanger 2-3 mots avec quelqu'un sans devenir un intime. Oui. Et c'est ça aussi la convivialité du bar, du café.
Qui se rend dans un PMU? C'est pas celui qui va commenter la vidéo sur TikTok, j'imagine. Il y a des jeunes encore?
Alors, vous avez raison, la première distinction, c'est l'âge. probablement. Les cafés, comme beaucoup de phénomènes culturels, vous parliez d'Omar Sharif, ce sont des lieux qui sont ancrés dans leur époque. Et même si tout le monde a entendu parler du PMU, tout le monde sait ce qu'est le PMU, les cafés et les bars, de manière générale, sont populaires, sont fréquentés par des gens âgés, parce que c'est des gens qui ont pris le pli, quand ils étaient jeunes, d'aller souvent au café. Il y a un renouveau des cafés, des coffee shops, on en parlera avec une clientèle plus jeune, mais il y a quand même cette barrière générationnelle. Et puis, il faut le dire aussi, depuis toujours, les cafés, c'est des lieux masculins.
Voilà. Pardon, mais on va en reparler effectivement des coffee shops, mais déjà, il y a une différence très claire, c'est quand même le prix. J'imagine qu'un petit kawa au comptoir d'un bar PMU, c'est pas le même tarif qu'un latte macchiato dans la nouvelle chaîne à la mode.
Ça a augmenté quand même.
Oui et non, parce que ça a augmenté. Ah, et ouais. En fait, le jeu, les gens qui jouent sont des passionnés. Souvent, ils peuvent rester un moment, si vous voulez. Enfin, un macchiato peut valoir, enfin, ou deux macchiatos, ça vaut deux, trois courses ou deux, trois jeux à gratter. Ouais, c'est aussi un choix, j'ai envie de dire. Ça dépend ce qu'on a envie d'acheter, ce qu'on a envie de faire.
Il y a le prix du café au comptoir et en salle, qui n'est pas le même.
Bien sûr, Quentin, ancien VRP des Cafés Richard, précisons-le à chaque fois, parce que ces interventions ne sont pas neutres. Qu'avez-vous pensé de nos émissions de la semaine? Et vous pouvez parler franchement, on est tranquille là au bar.
Je constate que franchement, ils sont toujours aussi nuls.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La dernière fois que j'ai poussé la porte d'un bar PMU, j'étais accueilli par ces mots chaleureux.
Salut les beaufs, et comment ils vont mes graines de chien là?
Oui, bourré à la suce cassis, Quentin tentait d'oublier le départ de Benjamin Tranier en l'imitant. C'est ce genre de moment magique qu'on peut vivre dans les bars PMU. Notre sujet cet après-midi, Jean-Laurent Casselli, qui a publié justement une étude sur ces établissements emblématiques, est avec nous. Jean-Laurent, je le disais en préambule, la France a perdu près de 18 000 bars tabac en 20 ans. Comment ça s'explique ça?
Alors moi, souvent, le chiffre que j'entends, c'est un peu une légende urbaine, c'est dans les années 60, il y avait 400 000 cafés et il n'y en a plus qu'environ 40 000. Bon, ce qu'il faut comprendre...
À ce moment-là, oui.
Ouais, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, Mathieu, les gens passaient leur temps dans les cafés. C'est-à-dire, ils sortaient de Radio France, ou ils sortaient de l'usine ou du bureau, ils allaient boire un coup, voire deux, voire trois. Bon, heureusement, ça ne se passe plus comme ça. Les gens boivent moins. Mais c'est vrai que cette vie, cette sociabilité de tourner vers l'extérieur, vers ce qu'on appelle aussi parfois les tiers-lieux, elle a réduit en faveur de la vie domestique déjà. Et donc oui, il y a moins de cafés, mais parce que leur centralité a un peu perdu de sa superbe. Quoi. Voilà, c'est vrai.
Vous avez commencé à le dire, mais c'est vrai qu'on a l'image des PMU qui sont essentiellement fréquentés par des hommes. Il y a peu de femmes, même encore aujourd'hui.
Alors, il y a deux choses. Les courses hippiques, c'est très masculin. Mmh. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui suivent la culture hippique. Et puis, le fait de se rendre dans un café, c'est très, très souvent, un homme seul va rentrer dans un café, une femme seule, moins souvent, pour plein de raisons culturelles. Moi, je me rappelle, quand j'étais en socio, j'avais un cours d'ethnologie de la Provence, et on parlait des cafés, les cercles provençaux au 19e siècle. C'était les cercles républicains politiques, où les gens, c'était des hommes qui parlaient entre eux, voilà, et les femmes restaient à la maison. Donc, il y a quand même cette tradition aussi.
Il y a des
lieux
patronnes
d'extérieur.
Quand même.
Alors voilà, c'est le paradoxe, c'est que très souvent, le patron, c'est une patronne. Ouais. Et souvent, dans les zones rurales, d'ailleurs, dans les petits villages, c'est très souvent une femme qui tient le bar ou le café.
Mais pourquoi?
Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est souvent c'est une activité qui est c'était soit une activité de complément dans un couple. C'est vrai aussi que les bars cafés PMU tabac qui sont dans les grandes villes sont plus souvent tenus par des hommes ou par des couples. Et plus on va dans les zones rurales, plus on s'est rendu compte de ça dans l'étude, statistiquement plus le patron est une patronne. Mais en fait il y a aussi une tradition probablement rurale de tenir un café. Mais j'ai pas l'explication exacte. Quoi,
des femmes essentiellement aux manettes, surtout en région. C'est ça un peu le paradoxe du bar PMU. C'était la clientèle n'est pas très féminine, elle n'est pas féminine du tout même.
Alors, il y a aussi une distinction qu'il faut faire entre les gens qui stationnent, les gens qui restent longtemps dans le point de vente et les gens qui ne font que passer, aller venir. Et ça, on le voit quand le bar, le PMU est un tabac. Quand vous allez, les gens qui fument ou les gens qui achètent des cartes téléphoniques ou quoi, rentrent et ressortent immédiatement. Donc, il y a toute cette clientèle de flux qui est un peu comme dans une boulangerie. Donc, tout le monde va dans une boulangerie. Beaucoup de Français peuvent passer dans un tabac, y compris les gens qui ne fument pas.
Mais je le précise. Il y a trois canaux. Il y a ceux qui viennent prendre des clubs, on va dire, ceux qui viennent jouer au PMU et les clients du bar.
Et les clients du bar. Alors, c'est la meilleure, c'est la plus belle configuration, c'est la configuration bar, tabac, PMU, où il y a effectivement, et c'est un peu comme dans un film de Christopher Nolan, il y a plusieurs temporalités simultanées. Il y a les gens qui restent, vous restez pendant 2-3 heures, il y a les gens qui font queue passer en flux. Et donc c'est vrai que ça crée un peu ce balai qui est très très spécifique au bar tabac, qu'on trouve pas dans un pur bar ou dans un pur tabac.
Et justement, dans votre étude, vous mettez le doigt sur une forme de ségrégation qui existe au sein des bars PMU, parce qu'il y a beaucoup de patrons de bars PMU qui ont décidé de séparer physiquement les parieurs des autres clients. Pourquoi ?
Oui, parce qu'en fait, l'activité de jeu, en fait, parfois il y a la télé en plus des bornes, et donc les gens suivent les courses, et ce qui est très sympa quand ils sont dans leur délire, et parfois d'autres clients n'ont pas envie d'être dans cette ambiance. Donc très souvent, ce qu'on fait les patrons, parce que souvent les gens qui ont un PMU, c'est des gens qui aiment bien aussi les courses, de même que ceux qui ont du pari sportif aiment bien suivre le foot, etc. Donc souvent, c'est des gens qui aiment bien les joueurs et les parieurs, mais ils leur mettent un espace qui est différent de celui de la consommation. Et pour revenir à votre question sur les femmes, il y a beaucoup de gens qui fréquentent peut-être en couple, en famille, les cafés, mais qui vont venir boire un chocolat chaud, mais qui ne vont, vont pas rester le soir.
Mais ça va être un espace fermé pour les gens qui parient. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, moi.
Non, c'est plutôt une sorte de sectorisation à l'intérieur du même point de vente.
Comme pour le tabac. En fait, il y a un coin tabac, un coin PMU, un coin bar.
Il y a une expression que j'adore. Vous parlez de coffee shopisation discrète des bars PMU. Racontez-nous ce qui se passe.
Oui, alors, parce que de loin, si on fait la cartographie un peu caricaturale, on peut se dire il y a les commerces de bobos avec les graines de chia, les cafés latés très chers, et puis les endroits populaires, voire un peu beaufs. Il y a cette vision un peu parisienne de loin.
C'est plus fin que ça.
C'est plus fin que ça. Il y a cet écart-là, mais il y a aussi tout un travail qui a été fait sur les bars populaires pour se mettre quelque part un peu au goût du jour, parce qu'ils ont aussi besoin de garder une clientèle plus jeune, de renouveler en fait. Les parieurs sont âgés, donc il faut aussi renouveler cette population. Ils font l'effort, notamment le PMU a collaboré avec le guide fooding, ce qui était assez emblématique quand même de ce changement aussi d'orientation et d'envoi de signaux aussi à d'autres populations.
Et vous, avez-vous déjà parié sur le bon cheval à Vincennes ? Avez-vous déjà senti l'excitation de voir votre poulain remonter tous les autres dans la dernière ligne droite, à 50 mètres de l'arrivée, passer devant alors que le Ricard vous bat les tempes, vous priez, vous fermez les yeux et soudain vous hurlez.
Pole position ! Incroyable performance, j'en ai des frissons !
Quentin, vous allez à la rencontre des passants pour
c'est
les interroger.
C'est pas sur un cheval.
Sur le rapport au bar PMU, oui, parce qu'il y a peu de pole position dans le monde des courses de chevaux.
Je sors de l'autoroute direction le Blanc-Ménil, à droite la station service Esso, un peu plus loin un centre de contrôle technique, ces zones de bord de ville où tout semble à la fois un peu gris, un peu fatigué, et puis coincé là, entre une barre d'immeubles et de résidences et quelques commerces, il y a le Balto. De loin, on dirait presque une petite maison de bord de route, mais avec cette enseigne, le Balto, tabac, bar, PMU, FDJ. Devant, quelques voitures garées, une moto appuyée contre le trottoir, la porte s'ouvre et se referme sans cesse. On entre, le bruit des chaises qu'on tire, les écrans de course hippiques accrochés au mur, et puis cette atmosphère aussi, ce mélange bien connu de café serré, de cacahuètes et de pastis, l'odeur typique des bars PMU au comptoir. Il y a une bande de copains, quand j'arrive avec le micro, ça rigole un peu. Ils me font signe qu'ils ne parlent pas très bien français, alors ils désignent ce monsieur.
Bonjour monsieur, je m'appelle Francisco.
Vous avez quel âge ?
46.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je travaille, dans le bâtiment.
Vous êtes avec qui, là ? Les autres me disaient qu'ils parlaient pas français. Ça parle quoi, ici ?
Turc, français, anglais, hongrois, roumain, moldave, russe, portugais, tous les langues.
Ils découvrent le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Les bars PMU. Moi, j'adore jouer avec les chevals. Moi, je suis un joueur du cheval.
Est-ce que c'est un lieu que tu aimes bien?
Moi j'habite ici là.
Ah, tes voisins?
Depuis 16 ans.
Et pourquoi tu viens ici alors?
Parce qu'aujourd'hui je travaille pas. Je suis tout seul à la maison. Ma femme elle travaille, mes enfants ils sont à l'école, donc moi je suis tout seul.
Et vous avez gagné ou pas?
Oui.
Vous avez gagné combien ce matin?
360 euros aujourd'hui.
Ah ouais?
Belle matinée.
Ah,
okay. Bah oui.
Ça court où là?
Comment?
Ça court où, sur quel hippodrome?
Ça va être à Laval.
Un peu plus loin, assise sur une petite table ronde, je rencontre cette dame d'une soixantaine d'années. Elle est penchée sur des grilles de jeu, extrêmement concentrée dans la main, le stylo attaché au socle rouge, le fameux stylo typique des PMU, celui qu'on ne peut pas emporter à la maison. Elle coche soigneusement ses cases, relève la tête quand je m'approche et accepte de discuter quelques minutes.
Faut jouer ou gagner.
Vous jouez, vous
passez de bons temps, oui.
Je vous ai vu.
Ça met des contracts.
Je vous ai vu remplir des grilles.
Oui, ça m'arrive de gagner aussi. 200 euros, par exemple. 500 en mois d'octobre, 1200 euros.
Ah, vous avez gagné de l'argent.
Oui.
Quels sont vos jeux préférés?
Amigo, souvent.
Amigo?
Oui.
Comment on y joue?
On fait les grilles et parfois flash. Surtout le flash, il me donne souvent le 200 euros. Ma combinaison gagnante, c'est mes dates de naissance de mes enfants et moi.
En jouant, il y a toujours une petite boisson chaude accompagnée d'un verre d'eau.
Et c'est mon café habituel, ouais.
Et vous passez combien de temps ici?
Là, j'ai passé presque 2 heures, ça me détend, ça me fait du bien.
2 heures?
Oui, bah, ça, parce que je suis toute seule, hein. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari. Hein.
Oui, c'est aussi un lieu qui repousse la solitude.
Oui, parce que quand vous êtes seule, ça vous fait du bien aussi sortir. Un peu, c'est mon sortir, hein, quoi. Ouais. Je vais pas au cinéma.
Vous allez au bar PMU.
Ouais, bah oui, ça m'arrive. Même pour jouer à mon loto.
Je quitte sa table en la remerciant.
Il n'y a pas de souci.
Je peux avoir votre prénom.
Bonjour, c'est Rajka Brkljac. Je suis ex-Yougoslavie.
Merci beaucoup.
Je suis née le 25 décembre 72, si tu veux ma date de naissance.
Je jouerai les chiffres alors.
Ah, tu joues les chiffres. Pourquoi pas. À bientôt. Les chiffres de fétiche, c'est A7, 12, 13, 18 et 25.
J'ai bien noté. Et puis okay, derrière,
sortir souvent, hein.
Derrière le bar, il y a le patron.
Bonjour, je m'appelle Farhat. Je suis gérant du tabac au Blanc-Ménil, le Balto.
Un torchon posé sur l'épaule, il observe tout ce petit monde avec l'assurance calme de ceux qui tiennent un café depuis longtemps. Il est accueillant, souriant même, mais il garde cette petite distance propre au gérant de bar, celle qui rappelle qu'ici, il y a ceux qui servent et ceux qui sont de l'autre côté du zinc.
Le bar PMU, c'est un lieu de rencontre où le bar est l'un des seuls endroits où aujourd'hui tout le monde peut se rencontrer, c'est-à-dire le haut de la classe moyenne, la classe pauvre, tout le monde peut se rencontrer, c'est le seul endroit en fait. C'est le dernier lien social, je dirais.
Là, vous avez... Quel type de clientèle ce matin, par exemple?
Essentiellement du bâtiment. C'est des gens du bâtiment, mais comme il pleut aujourd'hui, ils sont tous là. Et après, un peu de retraités qui viennent faire leur petit jeu, boire un café.
Il pense que l'emplacement du bar définit la clientèle.
C'est un point de rencontre parce qu'on est à la sortie de l'autoroute. Et les gens, quand ils vont au travail, ils se donnent rendez-vous ici pour aller se disperser sur les chantiers. Donc il y a Roissy qui est pas loin.
Je lui demande s'il a des habitués, des gens qui viennent tous les jours.
Ah oui, ça arrive, surtout les personnes âgées. On va dire que c'est l'un des derniers endroits qui tue la solitude. Pour nouer la solitude, ils jouent, ils rêvent. La plupart des gens qui jouent, ils rêvent de gagner le gros lot.
Ça parle beaucoup de ça, je l'ai entendu dans la salle.
Oui, il n'y a que ça, il parle que de ça. C'est si je gagne, c'est pas jamais si je perds, c'est toujours si je gagne. Et là où ils ont très bien réussi, c'est qu'ils arrivent à vendre du rêve. Je vois des gens qui commencent à plonger dedans, oui. Ça n'aide pas les gens qui sont dans le besoin.
Avant de partir, je ne peux pas m'empêcher de lui demander les plus grosses sommes gagnées dans son bar.
Le plus gros que j'ai eu, je l'ai eu en 2010, 500 000 euros au cash, 20 000 au blackjack, et au loto aussi à peu près, deux cumulés, ça faisait plus de 500 000.
Pour cette émission, j'ai choisi un PMU de banlieue, pas le cliché du café de village, pas non plus les bars parisiens qui s'amusent à en reprendre les codes pour mimer l'authenticité, le bar PMU coincé entre deux bars d'immeubles où l'on vient boire un café, discuter 5 minutes, regarder une course et parfois simplement tromper la solitude. Et comme vous êtes sympa, j'ai ramené 4 caches
à
gratter, histoire de voir si on peut rêver de partir sur une île avec 4 grilles attrapées au Blanc-Ménil.
Jean-Laurent Casselli, le bar PMU de banlieue, c'est encore un autre univers?
Oui, c'était très beau reportage. C'est vrai qu'on voit tout de suite à quel point on plonge dans une tranche de vie et on aurait pu aller dans... Merci pour le cash. On aurait pu aller dans n'importe lequel de ces bars PMU de France et on aurait trouvé des gens attachants. On a vu hein, des hommes, mais aussi des femmes, des gens âgés, retraités, mais aussi des gens qui bossent. Et puis, c'est rentrer dans une petite tranche de vie et découvrir un univers de gens, alors parfois qui aussi sont seuls, ça a été dit, hein, et qui ont envie de voir du monde.
On disait que le bar PMU, c'était une tradition très française. Est-ce qu'on trouve un peu le même genre de bar dans d'autres villes d'Europe, du moins j'entends, parce que États-Unis, Chine, je pense que ça n'existe pas. Mais...
En fait, alors, l'inventeur des tiers-lieux est un Américain qui, dans son livre, c'est un livre qui a été publié dans les années 80, prenait beaucoup l'exemple du pub anglais.
Ah oui.
Voilà. Et donc, c'est vrai que le pub anglais ou le café à la française, ça fait partie de ces lieux un peu mythiques du brassage social, et je pense que ça ressemble un peu. Aujourd'hui, il y a des pubs en France et des cafés traditionnels dans les pays anglo-saxons, donc il y a un certain mélange aussi des formats. Mais c'est vrai que vous avez raison que ça n'existe pas dans toutes les cultures. Ce qui existe dans toutes les cultures, c'est un lieu pour se rassembler. Voilà. Mais c'est pas forcément autour du café ou de l'alcool, quoi.
Mais le patron du bar PMU qui dit qu'effectivement, c'est un lieu de brassage social où les plus pauvres rencontrent les plus riches, c'est peut-être un petit peu exagéré, non ? J'ai l'impression que... Est-ce que vraiment les plus riches fréquentent des bars PMU ?
Alors, en fait, pour ce qui est du jeu, en tout cas, côté FDJ, donc jeu à gratter, loto, etc., la sociologie des joueurs, déjà assez massive, beaucoup de gens, hommes, femmes, vieux, jeunes et tout. Et surtout, ce sont des gens qui sont dans les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures.
D'accord.
Qui ont plus de revenus que le cliché qu'on a de, encore une fois, c'est cette personne qui reste dans le point de vente toute la journée. Donc c'est plus diversifié que ça. Je pense que ce qu'on a moins, c'est, bah, vous l'avez dit en introduction, c'est peut-être les bobos, quoi. Voilà. Oui. Le jour où on voit un bobo dans un au Balto du Blanc-Ménil, voilà. Bah là, vous m'appelez, on fera une autre émission, mais ça sera un scoop.
Encore le cas.
Voilà.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Comment ne pas évoquer le retour de hype des bars PMU sans avoir une pensée forcément émue pour le non-retour de hype du Zoom Zoom Zinc ? Cette séquence trop vite supprimée, carrefour des connaissances où l'équipe de cette émission pouvait s'engueuler, c'est-à-dire bon, comme d'habitude, mais de manière rémunérée. Il y avait tant de choses à dire sur le Zoom Zoom Zinc, mais je n'aimerais pas remuer le carambar de l'amertume dans la carie de la rancœur. Pierre, si vous deviez résumer le Zoom Zoom Zinc en un mot.
Exceptionnel. Articuler, c'est mieux peut-être. Exceptionnel.
Adjectif que Pierre n'emploie que très rarement, sauf si c'est pour saluer la 6e place d'un Français en combiné nordique unijambiste ou pour s'émerveiller de la clé de voûte d'une abbatiale située dans le Poitou sur son vlog « Mais que reste-t-il à Laurent Deutsch ?» Bref, c'est parti pour un quiz spécial « Origine du vocabulaire des bistrots ». Jouons au Zoom Zoom Test.
Exceptionnel.
Et puisqu'on parlait à l'instant du Zoom Zoom Zinc, savez-vous justement pourquoi on a abandonné les comptoirs en zinc aussi lâchement que notre séquence culte ?
Le zinc était... n'a pas laissé sa chance au produit.
Oui, le zinc était trop lourd et s'effondrait sous les coudes des habitués. Les émanations de zinc rendaient le café en carafe amer, ou l'acide des boissons alcoolisées laissait des auréoles trop difficiles à effacer sur le zinc.
C.
B.
Les émanations de zinc, Quentin. Mais souvent, on ressentit ça.
C'est C, mais c'est pas grave.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani.
Arrêtez de mettre toutes les bonnes réponses en C.
Qui marque un point, elle est donc à moins 1. Oui, l'alcool fait des marques sur le zinc. Or, Pierre Courade vous le dira, le cœur de métier du cornichon, c'est pas le Perrier Rondel. Mais continuons en musique.
Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léon.
Vous avez reconnu bien évidemment Raoul de Godswardel, Quand la mer monte, un banger de 1968, changer sa vie puisqu'on le retrouvera quelques années plus tard pendu à une poutre. Donc Manon, n'ayez aucun regret d'avoir laissé passer cette carrière de chanteuse électropop qui s'offrait à vous. Raoul qui chante.
Alors c'était super, merci.
Raoul qui chante dans cette chanson merveilleuse, on mesure les poissons en chantant des canons. Mais d'où vient cette expression de canon ?
Mesure les poissons.
Du bruit que font les vers en trinquant, semblable au cliquetis des anciens canons. D'une ancienne unité de mesure valant 6 centilitres utilisée pour servir le vin au XVIe siècle, ou d'un général napoléonien qui payait sa tournée en pièces d'artillerie fondues.
B.
C.
B.
Manon, vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas tremblé, vous avez directement choisi la réponse B, qui est la bonne réponse.
C'est oui, fou ça, oui, aucun oui. piège, elle tombe dans aucun piège.
Le fameux canon.
J'ai failli jouer, mais j'avais trop peur de me tromper.
Ah, mais allez-y, oui, n'hésitez pas.
Il faut
ça s'appelle le talent.
Le fameux canon fait référence à un verre de 6 centilitres. L'expression est restée, heureusement pour Manon, pas ce ridicule verre de 6 centilitres. Pourquoi pas boire dans un dé à coudre tant qu'on y est. Mais attention, on file au Moyen-Âge. À l'époque, dans les châteaux forts, ça ripaille à foison et ça trinque à la santé du marquis de la Carrière, dont le fils aîné vient de se marier.
Ah, jeune puceau, sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces. Un besogneux, t'as bien aimé.
D'après vous, Manon, ça vous donne envie de...
C'est quoi ?
C'est les visiteurs.
C'est Jean Reno. Vous insultez le patrimoine audiovisuel français, Manon.
Non.
C'est pourquoi je suis obligé de vous retirer
non,
un point.
Non, arrêtez, vous êtes à 0-0, là.
Vous repassez à moins 1. D'après vous, au Moyen-Âge, lors des mariages ou de toute autre fête impliquant un banquet, pourquoi trinquait-on si fort et si bruyamment en s'en foutant partout ? Pour prouver qu'on n'avait pas empoisonné le verre de l'autre ? Pour chasser les mauvais esprits par le bruit ? Ou pour décoller les résidus au fond du verre ?
Ah, je suis devant.
Alors, c'est comme ça, c'était pas en proclamant
non, mais je
que vous êtes devant.
Elle s'en est rendue compte.
J'attends le verdict de la régie.
Bah, Cyril ?
Normalement.
Si vous attendez ?
La bonne réponse, oui, mais... Non, la bonne réponse, elle a... Vous avez dit quoi, Quentin ?
J'ai dit A, moi.
Oui, c'est la bonne réponse, Quentin. Donc, réagissons en régie. Qui est le premier à avoir donné la réponse ? C'est Quentin, lui. Merci de suivre en régie. Réponse A, effectivement. À une époque où l'empoisonnement était monnaie courante, le fait d'entrechoquer énergiquement les verres servait à provoquer un débordement des liquides de son verre vers celui de l'autre. Si l'un des convives avait de mauvaises intentions, son propre breuvage, était donc contaminé par le liquide empoisonné qu'il tentait de faire ingérer à ses victimes.
Ouais,
elle aurait donc été pris qu'il croyait prendre. Trinquer violemment était en fait une sorte de contrat de confiance.
Ouais, c'est ça.
Comme Darty, même si Pierre Courat, déçu par le SAV, pour lui, cette confiance est brisée. Nous revenons à notre sujet pour une question fondamentale.
Faut l'avoir,
des bars PMU. Ouais, ouais. Mais vous savez que les gens l'ont parce que les gens écoutent Zoom Zoom Zen tous les jours.
Oui, tous les
pas
jours,
pour rien qu'on est number one. D'où vient l'expression
Devant les grosses têtes.
D'où vient l'expression chin chin ? D'une pub d'Alain Flelou pour l'opération Une paire achetée, de la deuxième offerte.
Attention. Hein.
D'un toast inventé par des marins bretons au XVIIe siècle. Ou d'une formule chinoise, Ching Ching, signifiant « Je vous en prie », ramenée par les soldats français en 1900, Manon. Vous avez l'air de mépriser cette... Bébé, vous êtes sûr de vous?
Ouais, hein, moi je suis sûr.
Grand couillon, bah, c'était la réponse C.
Oh non!
Évidemment, direction la Chine, 1900.
C'est un peu glottophobe de dire Chine Chine.
Comment ça? Vous allez voir, si vous voulez que je vous raconte l'histoire,
je vous écoute.
1900, lors de la campagne de Chine, un contingent de soldats français se retrouve dans la région de Canton. Pour inviter des gens à boire, là-bas, on dit « je vous en prie ». En version originale, c'est « chin chin » en chinois. Une fois de retour au pays, ces soldats gardent cette façon de trinquer et lancent une mode qui n'a pas percé au Japon. Pourquoi donc? Parce que les Japonais sont racistes et n'aiment pas les Chinois? Parce que trinquer était réservé aux geishas? Ou parce que tout simplement parce qu'en japonais, chin chin signifie bite. Donc, non. Notons cette réponse pour la postérité. Les Japonais sont racistes et n'aiment pas les Chinois.
Et moi, j'ai ASC.
Oui, ça va pas très bien quand même.
Vous, c'est ASC. Ouais. Vous n'aimez pas non plus, vous pensez que les Japonais sont racistes aussi. On ne peut pas essentialiser.
Bon, BSC alors.
La seule et bonne réponse était la réponse C, tout simplement.
Ah, ça veut dire.
Ça veut dire chibre, effectivement, okay. Ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. C'est ça aussi le gai savoir, des faits bruts, sans concession. Victoire,
c'est vrai que ce concert de faire. Allez-y.
Mais du coup, faut quand même vraiment pas dire chin-chin au Japon, quoi.
Ah non, au Japon,
c'est bon de savoir.
Avec ton verre levé, vite.
Ça dépend pour quoi faire, mais
voilà. Allez.
Quel avenir, en tout cas, quel avenir pour les bars PMU? On en parle cet après-midi avec Jean-Laurent Casselli qui s'est fendu d'une étude sur le sujet. Jean-Laurent, est-ce que la crise que subissent les bars tabac depuis quelques années n'est pas aussi une conséquence de la crise que vit le PMU, l'institution de Paris Hippique? C'est vrai que les paris sportifs se font désormais majoritairement en ligne. Inutile de se déplacer dans le but de parier. Il y a un grand changement qui est en train de se passer dans ce
de manière générale, il y a en marge du e-gaming, il y a toute la dématérialisation du pari, notamment du pari sportif. Et effectivement, ce qui est un peu étrange, c'est qu'en France, les opérateurs de jeux, enfin de paris sportifs, ont un monopole à l'intérieur des points de vente, mais à l'extérieur, c'est plutôt un peu le Far West, quoi. Et donc effectivement, c'est pas la même culture de jeu, et très clairement, les jeunes sont plus attirés par le jeu dématérialisé. Il n'y a qu'à voir les campagnes de publicité un peu agressives, voilà, de trois opérateurs qui les ciblent à fond. Donc l'idée de faire revenir, c'est un peu comme la question de la télé. Est-ce que les jeunes vont re-regarder la télé ou écouter la radio? Bon, il y a un passage de relais qui s'est fait. Est-ce que les plus jeunes vont refréquenter les cafés, les PMU, les lieux de
vente physiques? Ça n'en prend pas le chemin.
Si, quand même, il y a un renouvellement, parce que depuis le début de l'émission, on le dit, il y a quand même un intérêt certain de toute une population d'observateurs, de gens de la culture également, qui fréquentaient pas forcément ces lieux. Donc il y a une forme de fascination, parce que je pense qu'il y a ce côté un peu vintage, c'est vrai, un peu doudou,
qui plaît.
Voilà. Est-ce que ça va faire de nouveaux clients, de nouveaux parieurs? Ça, on sait pas encore. Voilà.
Oui, parce qu'on parlait quand même tout à l'heure des coffee shops, de l'émergence des coffee shops. En ce moment, la mode est au matcha, par exemple, qui coûte très très cher. Est-ce que aussi la jeunesse aime ça, parce que c'est des lieux instagrammables aussi, ces nouveaux lieux là où le PMU l'est absolument pas?
Ouais, ça en fait, ça répond à des attentes, comme le pub anglais l'a fait aussi, le coffee shop à l'anglo-saxonne. Il répond à des attentes de gens. Alors, par exemple, dans un coffee shop, la plupart du temps, vous n'avez pas de licence, vous ne servez pas d'alcool.
Oui. Voilà.
Donc, déjà, vous n'avez pas la clientèle qui boit de l'alcool, comme vous le faites à la fin de la semaine. Voilà. Mais donc, ça veut dire aussi que ça trie son public. C'est une clientèle aussi beaucoup plus féminine. Et aussi, c'est une clientèle dans les grandes villes, on le voit à Paris, d'étrangers, de gens qui, par exemple, vont se dire dans le coffee shop, les gens vont parler anglais, vont avoir plus mes codes. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine marginalisation du café populaire, mais en même temps, c'est ce que les gens viennent chercher dans ces cafés, ces bars, et c'est pour ça qu'ils en sont paradoxalement nostalgiques, même quand parfois ils les contournent, quoi. C'est tout le paradoxe, quoi.
Oui, voilà, parce que si on contourne les vrais, dans les vrais bars PMU, il y a quand même beaucoup de solitude. Il y avait cette dame que j'ai rencontrée qui vient passer 2 heures de sa matinée pour passer le temps et puis aussi tromper un peu la solitude. On est entre un lieu de sociabilité et un lieu d'addiction. Et j'allais dire d'addiction tout court, hein, parce qu'il y a jeu, alcool, tabac.
Alors, effectivement, c'est vrai que si vous dites bar PMU à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas les codes, qui ne les fréquente pas, il peut avoir un mouvement de recul ou de crainte. Et il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est le café. Parce que dans un bar, dans un café, on y va aussi pour boire un café. Mmh. Et c'est vrai que les coffee shops ont amené une culture du café dit de spécialité, qui est quand même vachement meilleure. Ouais. Et typiquement, moi, je fais partie des gens qui fréquentent les cafés, les bars tabac PMU pour l'ambiance et les coffee shop pour le café. Pour le goût. Voilà,
Il y a un aspect de votre étude, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, qu'il faut évoquer, c'est le rachat massif des bars tabac par des immigrés chinois. Comment on explique ce phénomène ?
Bah, en fait, alors, c'est une réalité, hein, clairement, statistique. Ce qui s'est passé, c'est que la vague d'Auvergnat, qui avait les cafés, notamment en région parisienne, les a en partie revendus. Et les Auvergnats, il faut se rappeler qu'à l'époque, ils étaient considérés comme les immigrés, les travailleurs immigrés de Paris. Donc, ils ont finalement, il y a eu un passage de relais. Et les gens qui connaissent bien ce monde-là me disent que de toute manière, on voit arriver toutes les vagues migratoires dans le café, notamment les Asiatiques et les Chinois, parce que une partie, en fait, enfin, une région spécifique en fait chinoise est peuplée notamment de commerçants, et donc ces gens qui avaient envie, quand ils sont arrivés en France, d'être indépendants plutôt que d'être salariés. Voilà, ça leur convenait bien. Donc c'est pour ces différentes raisons. Ouais.
Vous écoutez France Inter, et ma foi, je crois que c'est l'heure de l'apéro.
Toujours l'heure de l'apéro.
Avec vous, Manon Marieri, la pièce jointe.
Un bar, que dis-je, l'institution de Pierre Courade, qu'il a découvert un soir d'hiver en cherchant où se poser avec son mari pour boire une petite pinte pas excessivement chère.
Pas été déçu.
Et là, le miracle est apparu. Deux rues des Goncourt, en plein cœur du 11e arrondissement. Une devanture beige, des paravents rouges et un nom qui s'illumine en vert, le Cornichon. Un bar-restaurant ouvert presque toute la journée, du café du matin jusqu'au cocktail tard le soir. Pierre a trouvé son QG, du moins il le pensait, mais j'y reviens. Le lieu a été imaginé par deux amis d'enfance, Paul Henry et le chef Bertrand Chauveau, passé par les cuisines de Jean-François Piège. Leur idée, recréer un café de quartier contemporain entre bar tabac, cantine de midi, bar d'ambiance le soir. Dans une interview pour le journal Le Monde, ils ont même dit vouloir recréer un café comme l'iconique Mistral de Plus belle la vie, au cœur du quartier du Panier à Marseille. Le décor joue beaucoup, évidemment, avec la nostalgie des années 70. Il a été conçu par l'agence d'architecture Clave, avec banquette en velours vert, sol en mosaïque 70s, plafond laqué, flipper au fond de la salle, un mélange volontaire de PMU vintage et de bistrot modernisé. Dans l'assiette, la carte revisite les classiques, on a un semaine au déjeuner, des petites assiettes, des cocktails, avec des plats de bistrot comme les œufs sauce tartare, les grandes assiettes de frites. Je recommande les rigatoni à la sauge perso, voilà, petite purée.
C'était le petit conseil
de Manon. Sur les sites d'avis, certains parlent d'un vrai bistrot avec des frites cuite à la graisse de bœuf et une ambiance très parisienne. D'autres adorent la décoration. Alors oui, certaines critiques trouvent quand même la clientèle un peu trop branchée et le fait que ce
et
type... Et le fait que ce type d'endroit reprend les codes des PMU alors que c'est quand même très cher et fait pour les bobos parisiens, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Et puis, plus qu'un bistrot en fait de quartier, des gens viennent maintenant de l'autre bout de Paris pour espérer avoir une table au cornichon. Non mais c'est vrai, c'est un peu the place to be. Et c'est ce qui énerve notre rédacteur en chef adjoint, Pierre Courade, qui du coup ne peut plus s'asseoir en terrasse, boire un petit Sex on the Beach comme il aime. D'autant plus qu'il a appris qu'on pouvait réserver sa table en terrasse et pour une raison qui m'échappe, ça l'a énervé. Une terrasse, ça ne se réserve pas, dit-il. Si les gérants du Cornichon nous écoutent, s'il vous plaît, donnez une table à Pierre, qu'on ne l'entende plus sur le sujet.
Ah oui, s'il vous plaît.
Donnez-lui avis.
Ou bannissez-le. Ouais. Vraiment, au choix.
Faites un choix radical là-dessus. Merci Manon. Jean-Laurent Casselli, on rigole de ces nouveaux bars très parisiens, ces restos qui reprennent les codes du PMU. Alors c'est vrai que c'est la gentrification, on détourne quelque chose qui était authentique, mais est-ce qu'au final, si on commence à prendre goût à ça, ça va peut-être donner envie aux jeunes de fréquenter des vrais PMU ?
C'est vrai qu'on a vu arriver cette vague depuis quelques années de ce que certains journalistes culinaires ont appelé les néo-PMU, ou les faux PMU, les fake PMU, parce qu'en fait, ce sont des bars, cafés qui ont leur qualité, mais dans lesquels il n'y a pas de borne PMU, il n'y a pas de jeu, en fait, il n'y a pas de pari, donc c'est autre chose. Ça veut dire que c'est pas bien, c'était le Cornichon, c'est plutôt un beau restaurant, donc c'est moi ce que j'appelle un restaurant de destination, la preuve, on vient de l'autre bout de la ville pour y manger, donc c'est très bien, mais ça n'est pas un bar PMU, voilà.
Ouais, bah.
France Inter.
On pensait avoir fait le tour de la folie de Pierre Courade. Hélas, comme le disait Freud, le syndrome maniaque est aussi insondable que l'océan. Ce dont nous avons eu la confirmation hier au détour d'une conversation lunaire où Pierre nous a avoué l'impensable. Et je tiens à préciser que cette info est absolument vraie, je dirais tragiquement vraie. Pierre nous a donc appris hier, et pire, avec une certaine fierté teintée de malice, qu'il avait déposé le nom de domaine Larcher 2027, il y a déjà 3 ans, afin, je le cite, de le revendre au prix fort en 2026. Entendrez-vous quelque chose de plus triste aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Je pense avoir fait un strike de la gênance. Pierre, en attendant d'empocher le pactole avec l'Archer 2027.
Il devait avoir, je pense.
Ouais, mais c'est vrai, ça.
Certainement.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai,
c'est vrai.
C'est vrai. Merci, Pierre, de nous résumer quand même tout ce qu'on s'est dit sur les bars PMU en une minute chrono.
C'est vrai, c'était même entre les œufs durs et les cacahuètes du cornichon que j'ai eu cette idée de l'Archer2027.fr. Les bars PMU, les bars tabac, c'était notre sujet du jour. Avec Jean-Laurent Casselli qui a dirigé une étude à leur sujet, des lieux qui font partie du patrimoine français, du paysage urbain, des heures sombres de Manon Mariani et qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Moins 18 000 bars tabac en 20 ans. C'est une hécatombe. Une descente aussi rapide que celle de Quentin jeudi soir après l'émission. Alors pour se réinventer, les PMU se modernisent, montent en gamme pour accueillir un public un peu plus urbain, un peu plus bobo. Il faut dire que les bars tabac souffrent d'une réputation très masculine, plutôt âgée, des parieurs. Les parieurs de course, hein, hippiques, peuvent impressionner certains clients. Ainsi, Jean-Laurent Casselli nous a expliqué que certains patrons de bar séparent physiquement les parieurs des clients venus prendre un kawa ou un petit galopin. En fait, chaque bar tabac s'adapte au marché local, au risque de perdre leur âme. La coffee shopisation des PMU a été constatée par notre invité. Des PMU arrêtent de vendre des jeux à gratter ou des paris hippiques, un comble, pour proposer des cafés de meilleure qualité et plus cher. Reste que le bar tabac continue à être fantasmé, surtout par ceux qui n'y sont jamais allés. On recherche aujourd'hui l'ambiance PMU, un vestige d'une France unifiée, comme le dit notre invité, un lieu de socialisation où on peut dire des conneries avec René, l'ancêtre des réseaux sociaux, mais en vrai, on ne se cache pas, on débat, on déconne, le Zoom Zoom Zen, Zoom Zoom Zen ou le balto, chin chin, c'est la même chose.
Attention, chin chin, vous avez appris ce que
vous avez. C'est justement.
C'est pour ça qu'il le dit.
Je suis allé au Japon aussi.
Très attention. Enfin,
beaucoup de chin chin.
Les amis, comme la coloscopie passée 50 ans, c'est une épreuve douloureuse mais à laquelle on ne peut pas se dérober. Le débrief hebdomadaire du docteur Rollin. Bonjour François.
Bonjour mon cher Mathieu. Alors, j'ai vraiment du mal à écouter attentivement votre émission. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est soporifique et médiocre. Non, je ne ris pas. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Non, c'est aussi que l'horaire est mal choisi. Car à ces heures-là, moi, et je dis bien moi, je n'essaie pas de dire que c'est le cas de tout le monde, à cette heure-là, moi, je pense à ce que je vais manger le soir. Et ça n'est pas toujours simple. Regardez, lundi, vous parliez des polycrates, ces gens très riches dont l'empreinte carbone est scandaleuse. Empreinte carbone, carbone, c'est là que j'ai décroché parce que je me suis mis à penser à des carbonara. Avec toutes les controverses qui accompagnent cette recette italienne. D'abord, quelle sorte de pâte ? On exclut naturellement les coquillettes, les macaronis, les conchiliers, les farfalets, les fettuccini, les fusillis, bien entendu. Mais après, spaghetti, linguine, tagliatelle ou penne rigatée ? Les quatre sont possibles, mais pas moyen de mettre tout le monde d'accord. Et puis, on met quoi dedans ? Du guanciale, assure certains, mais le goût est un peu fort et dominant. Des lardons fumés sous blister. Des lardons pas fumés sous pas blister. Du speck, c'est le bon choix le speck, mais il a des détracteurs, on va savoir pourquoi. C'est peut-être le mot speck avec sa connaissance, sa consonance allemande qui fait peur. Et puis surtout, surtout Mathieu, crème ou pas crème, la recette originale ne contient pas de crème, elle n'utilise que des œufs. Les intégristes ne veulent pas entendre parler de crème, mais pardon, c'est bon aussi avec de la crème. Moi je fais infuser mon speck rôti à la poêle dans la crème avec trois bons tours de moulin à poivre, il y en a que ça défrise. Je m'en fous, je suis un dingo, je le fais quand même. Voici le flash de 17h. Ah zut, j'ai raté les polycrates. Mardi, vous avez parlé de monogamie, de fidélité avec Sabine Valence. C'est là que j'ai décroché. Valence, Valencia, j'ai commencé à penser à une paella valencienne, avec toutes les controverses qui accompagnent cette recette espagnole. Et d'ailleurs non, pas espagnole, catalane, c'est pas pareil. Et puis, doit-on dire paella ou paella ou paella ? Et puis surtout, doit-on mettre des fruits de mer dans la paella ? Et non, 100 fois non, la recette originale de la paella valenciana ne comporte que du poulet et du lapin. « Oui, mais moi, je ne mange pas de lapin. Eh ben, va manger ailleurs. Va manger ta paella pour touristes avec des crevettes toutes molles et des moules avariées et des palourdes trop lourdes et du calamari en amarre. » Tout de suite, le flash de 17h. Oh, flûte ! Encore raté. Mercredi, j'ai même pas essayé de savoir ce que vous alliez dire sur l'orientation scolaire. J'avais déjà en tête un cassoulet. Et pour servir un cassoulet à 20h, il faut être en cuisine dès 15h. Sinon, c'est pas sérieux et on peut se faire interdire de séjour à Castelnaudary. Jeudi, j'étais prêt à me rattraper. Mais vous avez commencé à parler des aliments bons pour la santé. Ah, j'ai tout de suite pensé à un tartare d'huître. Moi, je mets des huîtres haut de gamme, des spéciales de Léron. Je mets des fleurs de câpre, du concombre bio, de la salive licorne de la baie de Somme, du cerfeuil et de la coriandre, de l'oignon rosé de Roscoff, des cornichons de chez Marc, la seule enseigne qui vend des cornichons venus de France et non pas d'Inde, une pincée de gomasio, vous connaissez Mathieu, le gomasio, oui. Hein, c'est un mélange de sésame blanc torréfié et de sel marin. Tout ça, c'est des trucs très bons pour la santé. 17h, les informations, Jean-Luc Barchouski. Ah, zut, désolé. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis arrivé très concentré pour vous entendre parler de la sauvegarde du dernier commerce populaire, le bar tabac. Bon, le tabac, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour la santé, alors parlons du bar tout court, le bar. Ouh, un bar de ligne en croûte de sel. Avec la croûte de sel, pas moyen de surveiller la cuisson à vue. Il faut l'expérience pour que la chair du poisson soit cuite et fondante, mais pas sèche. Et c'est pas mal d'inclure quelques graines de fenouil dans la croûte de sel. Voilà, sinon c'était bien votre petite causerie sur les bars tabac.
Oui, je serais d'écouter une fois. Merci François Rollet, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen à Lille, sauf si vous persistez à mettre de la coriandre dans les plats, puisque notre rédacteur en chef Cyril est allergique. Oui, non, on sera.
Non,
à Lille.
Il n'aime pas.
Il n'aime pas ça.
Oh, on sera à Lille.
L'allergie, c'est important. Oui, la excuse,
mais c'est limite. Producteur.
Zoom Zoom sera, c'est la tradition en direct du festival Sérimania. Ah oui, on est quasiment vrai. Chez nous. Merci Jean-Laurent Castelli, je rappelle votre étude, La France des bars tabac. Réinventer le dernier commerce populaire. Merci d'avoir zoomé avec nous. Avec vous avez gagné, vous avez gratté.
Non, il va falloir que je revienne parce que j'avais
pas
gagné. Eh, moi non plus, j'ai pas gagné.
Ah, moi j'ai pas encore gratté.
Moi j'ai pas encore fait non plus.
Ça serait logique que ça tombe sur moi. Zoom, zoom, zen.